France Inter.fr.
Jean Lebrun pour la marche de l'histoire. Bonjour Jean.
Bonjour Claire Servageant.
Un sujet qui, l'air de rien, reste d'actualité aujourd'hui.
Ben oui, parce qu'avant les indignés, il y avait les doléans, et les doléans des Cahiers de Doléans, ce n'était pas dolent.
Bonjour chers écouteurs.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun.
« 1789, les cahiers de doléances, le peuple prend la parole. »«
Eh bien, chers frères, nous nous tiendrons en assemblée paroissiale, aujourd'hui 6 mars, dans le vestibule de l'église, pour rédiger le cahier de doléances de notre comté. Tous les hommes âgés de 25 ans et plus, payant des impôts, sont invités à venir s'exprimer.
Je me présenterai.
Notre devoir est de saisir cette occasion pour faire connaître à notre bon roi la vérité sur ce qui ne va pas dans son royaume. In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti.
Amen.
C'est un moment décisif. Louis XVI a cédé à la demande de convocation des États généraux et, involontairement, il va faire de ceux qui n'étaient que ses sujets des membres de droit d'un corps politique nouveau. Et ce corps va se doter de bouches innombrables. Les cahiers de doléances qui surgissent de partout sont bien autre chose d'ailleurs que des suppliques. La plainte devient vite politique. Et d'un même mouvement sont élus des délégués qui se retrouvent ensuite dans des assemblées intermédiaires qui vont à leur tour désigner les députés à envoyer à Versailles. Et ces députés seront implicitement porteur du mandat formulé par les cahiers. Le système représentatif qui va se mettre en place sera-t-il perméable aux attentes du peuple ? Aujourd'hui, le pouvoir législatif, outre qu'il est dominé par l'exécutif, est autrement isolé des électeurs. Les leaders d'opinion veulent créer l'événement en levant des tabous, en dévoilant ce qui serait caché. Et du coup, les leaders d'opinion veulent créer l'événement. Les demandes évidentes du plus grand nombre ne sont plus prises en compte. En 2012, il serait peut-être utile de revenir sur ce moment fondateur de l'écoute politique, la saison des cahiers de doléances, avec Sophie Vaniche aujourd'hui. Bonjour.
Bonjour.
Sophie Vaniche est une historienne de beaucoup de sujets. Elle cherche dans chacun de ces sujets la dimension sensible, et une de vos périodes favorites, c'est celle de la Révolution. Vous écoutez les voix de la Révolution. Vous nous direz aussi peut-être à la fin de l'émission qu'il faut écouter les voix d'aujourd'hui.
Oui, en effet, la question de la doléance pour pouvoir faire savoir la vérité sur ce qui ne va pas, sans doute que c'est effectivement encore d'actualité.
Alors on va commencer par raconter ce qui s'est passé en 1789, avant d'appeler un rebond des doléances en 2012. Notre scène, ça va être une paroisse rurale. Enfin, il y avait d'autres cadres pour les cahiers de doléances. En ville, on faisait aussi des cahiers de doléances.
Bien sûr, on a fait des cahiers de doléances à la fois en ville et dans les villages. Et surtout, ils ont été convoqués par ordre. Et donc là, ce qu'on a entendu, c'est une convocation pour le tiers-état. Mais il y a eu également des convocations pour le clergé, séparé du tiers-état et séparé de la noblesse. Et donc chaque ordre a écrit ses cahiers.
Alors on va être nous dans le tiers-état, c'est un parti que nous prenons dès le début. Et dans le tiers-état rural, la société est encore largement paysanne. Et nous allons suivre pas à pas le déroulement d'un film de Maurice Feivic qui appartient à la haute tradition des réalisateurs sociaux de la télévision française. Et son film 1788, qui date de 1978, a pour scénariste Jean-Dominique de La Rochefoucauld. Comme quoi, il y a peut-être des nobles qui, en 1978, comme en 1789, ne prenaient pas le parti des privilèges. Ça
a
existé.
Il y a toujours eu des transfuges. Et c'est grâce aux transfuges, en général, qu'il se passe quelque chose.
Alors, on est en Touraine, Sophie Vaniche. Quel est le rapport de force? Première scène.
On vient pour les prés, monsieur le comte, qui sont bien de la commune. Votre garde en a interdit le passage à nos bêtes, on ne comprend pas.
Il n'y a pas de bien de la commune, Coquart. Ce que vous appelez bien de la commune sont des terres dont mes ancêtres vous ont abandonné l'usage. L'usage sans droit.
Et pour que ça dure si longtemps, l'usage, il faut bien qu'il y ait eu quelque accord dans le passé, monsieur le comte, entre l'un de vos ancêtres et les nôtres, je sais pas moi, des titres, on devrait bien trouver ça ici.
Attention, Martinois, ne pas me fâcher avec vos insolences. Vous oubliez qu'il n'est nulle terre sans seigneur. Ces terres-là sont comme les autres. J'en suis maître et seigneur et j'entends bien le rester.
Si je puis me permettre, monsieur le comte, pensez à nos paysans dans la gêne. L'année est mauvaise, les bêtes sont maigres, la maladie peut s'y mettre. Ce serait terrible.
Monsieur le curé, l'année est mauvaise pour tout le monde. De toute façon, il est grand temps qu'on vous prive du mauvais usage que vous en faites.
Monsieur le comte, quel autre usage peut-on en faire que d'immener des bêtes qu'on rendrait ailleurs par ces secs?
Monsieur le comte, ne pouvez-vous revenir sur cette décision?
Non, monsieur le curé, c'est réfléchi. Vous devriez savoir que je cède peu, surtout à des manants qui élèvent le ton contre moi.
Bon, on parlera tout à l'heure du curé qui tente de servir d'intermédiaire. Le face-à-face entre les manants et le rentier du sol.
Alors, ce n'est pas simplement le rentier du sol, il se présente bien comme le seigneur. Et de ce point de vue-là, il affirme qu'il y a une différence de qualité fondamentale et qu'ils n'ont pas le droit du tout à la même dignité, à la même qualité.
Vous diriez différence de race ?
C'est quelque chose qui se dit à la cour depuis au moins le développement des thèses de Boulainvilliers qui affirme qu'il y a une race des seigneurs et une race des non-nobles, enfin des autres, qui renvoie à la question des Francs et des Gaulois. Et ça va être un des enjeux de la période révolutionnaire. Dans ce qui est dit là, c'est un rapport de classe, tout simplement, aussi, parce que c'est une position sur l'appropriation des terres et le fait de fabriquer des grandes surfaces agricoles qui vont conduire en fait les petits paysans à ne plus pouvoir être autonomes. Parce que ces biens communaux permettaient à chaque paysan d'avoir au moins une bête et de pouvoir donc avoir du lait, régulièrement de la viande, etc. Et de pouvoir
mener
sur ces biens communaux,
ces bêtes,
un cochon, une vache et donc pouvoir avoir une certaine autonomie. Cette manière de faire, c'est en fait quelque chose qui est lancé par les physiocrates et les libéraux, qui affirment qu'il faut donc rationaliser les exploitations. Et pour rationaliser les exploitations, eh bien, on est prêt effectivement à ne pas tenir compte non seulement de la dignité de ces personnes, mais également de leur droit à l'existence. Et donc c'est ça qui se joue dans cette affaire de biens communaux.
C'est le libéralisme qui s'installe dans le long terme. Et puis à court terme, on a entendu que les années qui ont précédé la Révolution française étaient mauvaises. Mauvaises pour tout le monde, dit le comte. On va retrouver notre curé, alors dans un autre rôle que lui ouvre la nouvelle situation politique. Il faut dire que le gouvernement ne peut plus payer les dettes nées de la guerre d'Amérique et puis que les nobles refusent de devenir des contribuables massifs qui pourraient aider à la réforme, le bon roi Louis XVI.
Ils refusent fondamentalement, ils ont refusé avec âpreté depuis au moins la réforme de Turgot de 1774-1775 qui avait mené à une politisation très forte de ces mêmes paysans qui avaient protesté contre un système qui, au lieu de rendre le marché plus fluide, l'avait au contraire rendu impossible et avait créé des situations de fausse disette et avait fait finalement monter les prix d'une manière inacceptable, ce qui avait conduit à ce qu'on appelle des taxations sur les marchés, c'est-à-dire que les paysans ramenaient le juste prix en affirmant lequel il était, contre un prix abusif lié à ces jeux d'accaparement sur les marchés. Donc c'est un point très intéressant de voir comment les choses se nouent entre biens communaux, dettes, réforme impossible. Et cette réforme libérale donc est impossible en 1775. On réunit toutes sortes d'assemblées de notables contre le pouvoir des parlements pour pouvoir faire passer un impôt sur tous les biens fonciers. C'est ce que souhaitait Calonne. Et on ne réussit pas à convaincre les notables qui votent absolument contre et qui sont convaincus qu'il ne faut surtout pas laisser la classe des non-nobles pénétrer dans la noblesse, mais au contraire affirmer d'une manière tout à fait classique et ancestrale que l'impôt du sang remplace l'impôt tout court et que si on fait rentrer les riches capitalistes du type de Perrier, par exemple, dans la région du Dauphiné, dans la classe des nobles ou dans l'ordre de la noblesse, pour être exact avec les termes, alors ils ne pourront plus avoir de légitimité à les faire payer. Donc il faut faire payer les riches parce que l'argent, c'est l'égalité du sang.
Mon village de Touraine, Sophie Vaniche, mon curé, alors le curé, il est plutôt du côté des manants. Et il a, ce jour-là, au prône, le dimanche en chair, une bonne nouvelle à annoncer.
Mes bien chers frères, aujourd'hui, en ce dernier dimanche avant les rameaux, l'ordre du prône se trouve bouleversé. En effet, j'ai reçu mission de notre gouverneur de Tours de vous informer d'un mandement édicté par le roi lui-même. J'obéirai à cet ordre avec d'autant plus de zèle que ce mandement semble destiné à soulager les extrêmes gênes et misères dans lesquelles tant de nos fidèles sont plongés. Sa Majesté a voulu se mettre à portée de convoquer les États généraux de son royaume en vue de surmonter toutes les difficultés où elle se trouve relativement à l'état de ses finances. D'autre part, elle souhaite connaître les doléances de ses peuples de manière qu'il soit apporté le plus promptement possible un remède efficace aux maux de l'État et que les abus de tout genre soient réformés et prévenus par de bons et solides moyens. À ces causes, Sa Majesté désire que s'assemblent dans ses villes et villages et dans le plus bref temps les habitants pour conférer ensemble tant des remontrances, plaintes et doléances que des moyens et avis qu'ils auront à proposer. Et pour élire, choisir et nommer des personnes dignes de confiance, capables de transmettre ces remontrances et propositions jusqu'aux 10 États.
Alors le règlement électoral, il est fourni là. Donc qui a 25 ans, qui paye ses impôts, a le droit de parler et d'élire ?
Toute personne qui a 25 ans, et c'est un règlement électoral qui est extrêmement ouvert et qui sera, enfin, on n'aura pas de règlement électoral aussi ouvert avant très 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 longtemps, puisque on peut être tout à fait étranger si on paye la taille, qu'on est inscrit au rôle de la taille, eh bien on est effectivement électeur. Et puis en plus, si on est une femme veuve ou si on est un mineur dépourvu de parents, on pourra également être électeur. Participer aux assemblées et prendre la parole dans ces assemblées.
Les assemblées ont lieu le dimanche, souvent dans le vestibule de l'église, et du moins dans le cas dans le film de Feivik, la cloche sonne l'appel. Et qui préside, Sophie Vanich ?
Alors ça dépend des endroits. Dans les villages, très souvent, c'est le coq de village, le plus gros laboureur, mais ça peut être aussi un juriste. Et effectivement, ils ont joué un rôle important dans la rédaction des cahiers, ce qui leur donne une connotation juridique assez forte. Et c'est plutôt ce langage du droit d'Ancien Régime qui est très présent dans les cahiers, plutôt que le langage des Lumières à proprement parler.
Et qui va parler qui va parler, Sophie Vanich ?
Régine Robin, quand elle est
Les Robins savent lire et tenir la plume. Combien de paysans dans notre village de Touraine ou ailleurs savent lire et écrire ?
Alors on est au moment du grand basculement de l'alphabétisation et du moment où aujourd'hui les démographes affirment que les possibilités révolutionnaires sont réunies sur le plan sociodémographique quand on atteint ce type de pourcentage. Donc on est autour de 40% d'alphabétisation de lecteurs à proprement parler, pas simplement de savoir signer son nom pour les hommes et autour de 29% pour les femmes.
Et si le peuple ne sait pas toujours écrire, disait Pierre Goubert, auteur de « Les Français ont la parole », il sait au moins dicter une fois vaincu les premières timidités.
Je suis prêt à écrire sous votre dictée.
Alors Antoine, on a pris ta maison, t'as rien à dire.
Et toi, Renaud ?
Et toi, Alcide ? Alors ?
Ce que j'ai à dire, chacun le sait bien.
Et les bois et les prés ?
T'as qu'à parler pour nous, Joseph ?
Bon sang, je peux pas parler tout seul.
Tu peux déjà mettre que Maître Brissot devrait pas être juge quand il nous attaque.
De toute façon, il n'y a point de loi, c'est le château qui décide.
Pour nous, il y a plus lieu de faire un procès.
Le comte nous fait ses voix. Nous, par exemple, avant, on peut avoir un droit de voir le voisin. Non, 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 les parents, les bandits, les droits.
Mes amis,
faut dire au roi comment les gabous traînent de
prendre. Mes amis, s'il vous plaît, attendez.
En même temps que vos impôts, vous pouvez faire monter vos bières. Un jour, vous n'aurez que la peau, messieurs les mecs des ministères. Y en a marre. En même temps que nos chagrins, vous pouvez préparer vos larmes. Un jour, nous ferons notre pain dans vos pétrins avec nos armes. Y en a marre. En même temps que nos frangins qui se préparent dans le monde à réviser tous vos machins, nous autres on compte vos secondes. Et en a marre. Qu'est-ce qu'ils vous ont donc fait les hommes ?
pour vouloir leur filer la cerise. C'est peut-être des poires, c'est peut-être des pommes, mais laissez-leur au moins la chemise. Y en a marre, y en a marre.
La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter.
Les cahiers de doléances avec Sophie Vaniche. Alors on s'est permis, Sophie Vaniche, une liberté historique, Ferré, qui ne laissait personne gueuler sa place. Et au fond, c'est justifié parce que vous allez nous parler des cahiers de doléances de 89. Vous êtes l'auteur récemment d'un livre intitulé « La longue patience du peuple » chez Payot. Et puis on parlera aussi de votre action pour organiser les doléances d'aujourd'hui. Mais parlons des doléances de 89, de leur contenu. Il y avait des modèles qu'on recopiait, que les Romains, les hommes de loi faisaient circuler.
Alors pour le coup, c'est plutôt des hommes des Lumières qui ont fait circuler des modèles. Par exemple, dans la région de Tours, là, qui est présentée, c'est Volney qui a fait circuler un modèle de cahier. Et ensuite, les différentes paroisses, soit se l'étaient procuré au marché avec des colporteurs, enfin de différentes manières, hein, il y avait des modes de circulation variés, et acceptaient de l'utiliser effectivement comme une sorte de trame. Ce qui veut dire qu'on le recopiait, mais pas intégralement. On recopiait ce qui plaisait, ce qui paraissait intéressant, satisfaisant. Et puis on rajoutait les choses qui étaient spécifiques à sa paroisse, à ce qui se jouait concrètement au niveau local.
Vous en avez tenu entre les mains des cahiers de doléances. Il y en a eu des milliers, des milliers, des milliers.
Oui, oui. Mais en fait, ils sont maintenant des objets de musées et d'archives. Donc il se trouve qu'il y en a un qui est assez intéressant au musée Gadingue de Lyon, musée d'histoire de la ville de Lyon. Et donc j'avais travaillé sur les objets révolutionnaires de la ville de Lyon. Et donc oui, j'ai travaillé sur celui-là, par exemple.
Au musée Gadingue, une exposition actuellement sur la cuisine lyonnaise. Tenez, à propos de cuisine, les cahiers de doléances ne recommandaient pas d'innovation technique en matière agricole. Il ne fallait pas attendre des cahiers de doléances,
si,
l'éloge de la pomme de terre, par exemple.
L'éloge de la pomme de terre, peut-être pas, mais comme il y a des... Enfin, du côté du tiers-État, la question se pose aussi de savoir comment améliorer les rendements, comment faire en sorte que les choses permettent de ne plus avoir de disette. Mais dans tous les cahiers, il y a quand même cette dimension-là qui apparaît, et en particulier du côté de la noblesse. Ceux qui veulent récupérer les communaux, ils disent, voilà, il faut qu'on accepte de transformer, d'avoir des réformes, de modernisation. Et ces pauvres manants ne comprennent pas que c'est une nécessité absolue. On a des choses qui résonnent avec aujourd'hui.
La question du maintien des usages et du renouvellement des formes techniques, et puis la question de l'abolition des privilèges. C'est ça la question centrale.
La question centrale, elle est en filigrane dans l'extrait qu'on a entendu, c'est la question de l'arbitraire. C'est-à-dire qu'il s'agit bien sûr d'abolir les privilèges, c'est-à-dire de faire en sorte qu'il y ait enfin une égalité fiscale, chose qui est attendue depuis les années 1770 et qui est travaillée. Mais on souhaite surtout qu'il y ait une loi qui soit une loi référente et qu'on ne soit plus dans la possibilité que chaque décision dépende de l'arbitraire du plus puissant local.
Nos extraits viennent du film de Faivic et Jean-Dominique de La Rochefoucauld, 1788. Le silence avait été suivi du brouhaha, et du brouhaha émerge une voix de femme. Vous allez nous dire que c'est une voix de veuve, non ? Les femmes qui s'exprimaient, c'était souvent des veuves.
Oui, ouais. C'est le cas.
Puisque personne n'ose parler, qu'il faut bien que le roi sache la vérité, je vais lui dire, moi, Rosine, la femme Martin. Et j'aurais point peur de lui conter la méchante manière dont nous traitent ces gabelous, qui viennent jusque dans nos maisons tâter la soupe. Toi, il me dit, ça sera 18 livres en vente forcée de sel. T'as eu un enfant cette année, 2 livres de plus. T'es pas contente, 4 livres. Un poupon, ça ne mange point de sel, tu te dis, la nourrice en mangera pour 2, 6 livres. À qu'un seul la livre de sel, 24 journées de salaire données à la gabelle, plus les droits du seigneur, plus la taille, plus les pauvres à nourrir, plus les mauvais traitements. Quelle dignité peut-on trouver là à vivre ?
Avec qu'un seul la journée que je gagne quand il y a de l'ouvrage, et le sel à 15 sols la livre, le pain à 4 sols la livre, et le beurre à 24 sols, sans une perche de terrain pour planter nos légumes, pour nourrir une famille de 8. Et voilà que le comte ferme les communaux à notre seule vache, et si on va couper notre herbe sur notre pré, il nous traite comme des bandits, et ses gardes nous frappent sans qu'on puisse répondre.
Moi, pour un sens restendu, les gardes du château me chassent de la maison où je suis né. Je dois déguerpir pour point faire de la prison et point laisser femmes et enfants trop démunis. Et la terre, le comte la loue à un gros fermier qui n'est point de ce village et qui sera bientôt par ici le seul à vivre, à tenir tous les manouvriers sous sa coupe, donnant ce qu'il veut par jour.
Ici, les terres paient la dîme pour que l'église fasse une école. Mais d'école, il n'y en a point, parce que notre bon argent ne va point au curé, mais au chanoine, qu'il dépense ailleurs. Si bien qu'on n'est même plus dans le cas d'élever nos enfants dans l'instruction qu'est due à l'homme.
Écris, Guillaume, dans ce village, 300 enfants de bonne terre ont été repris par le comte, pour les louer d'un lot à un marchand de la ville qui les a clos et soustraits à la pâture commune. 300 arpents qui pourraient bien faire vivre 30 familles et 60 domestiques qui tantôt se seraient mariés. Au lieu de ça, sont bien obligés de partir célibataires dans les villes pour avoir de l'occupation. Écris Guillaume, Grand-Jean, Julien, David, Germain et bien d'autres encore qui sont devenus des meurs-la-faim. Écris Guillaume.
Le fisc qui produit des situations intolérables tellement elles sont injurieuses pour ceux qui ne sont pas privilégiés.
Elles ne sont pas simplement injurieuses, elles remettent en question la possibilité de vivre au quotidien correctement, tout simplement, même pas correctement, de survivre. Et c'est ça qui est au-delà de l'injure.
Ça paraît intolérable, mais qu'est-ce qui paraît désirable ?
Ce qui paraît désirable, c'est que les règles du jeu soient claires et qu'on puisse du coup faire recours d'une manière tout à fait honnête quand elles sont enfreintes. Donc c'est pour ça qu'on réclame une constitution. On réclame qu'il y ait enfin la possibilité de se référer à la loi comme tiers dans des affrontements qui peuvent exister comme là entre le comte et les villageois. Et que quand on décide de faire les enclosures, hein, de fabriquer ces clôtures sur ces fameux 300 arpents, bien qu'on sache si c'est effectivement la règle du jeu ou pas et qu'il y ait une bataille politique pour décider de cette règle du jeu.
Alors la Constitution, on imagine déjà qu'elle serait l'œuvre de la députation, non ?
Si, on attend de des États généraux, bien sûr, de régler la question des dettes, hein, puisque c'est quand même la raison pour laquelle ils sont convoqués. Mais ce qu'attend le tiers-État, là, d'une manière tout à fait spécifique, c'est effectivement qu'on prenne en compte l'idée d'un bonheur commun à venir qui ne peut passer que par l'élaboration d'une loi commune.
Alors, les lois communes vont être rédigées, imagine-t-on, déjà par ceux qui sont élus. En même temps que les cahiers sont rédigés, on les signe et on élit les délégués. Dans notre village de Touraine, le personnage qu'on voit émerger, qui sera l'un des deux élus, c'est Guillaume Coquart, et qui en a sous la pédale, parce qu'il a de la ressource. Il a des textes déjà rédigés sous la main pour lui permettre cette péroraison à la suite de la discussion.
Si vous voulez, je vais vous lire ce que nous, à Chinon, nous avons rédigé. Tu parlais de Gabelle, Rosine ?
Écoute donc.
Les députés aux États généraux voudront bien s'occuper de l'abolition de la Gabelle.
C'est toi, Nicolas, qui parlais de justice ? Article 23.
Que tous les tribunaux d'exception soient supprimés et qu'il n'y ait plus qu'une seule classe de juges. C'est toute l'administration de la justice qu'il faut réformer. Il faut que tout citoyen français est libre dans sa personne, dans ses actions, dans ses biens, quand l'usage de sa liberté n'est point contraire aux lois de la monarchie. Vous comprenez, mes amis ? Il faut aller au fond des choses. Qu'est-ce qui empêche le bonheur du peuple ? C'est que le tiers-État, qui est tout dans la nation, n'est rien dans l'ordre politique. Quels que soient les services que tu rends, lui dit-on, quels que soient tes talents, quelle que soit ton utilité qui est première, tu iras jusque-là et tu ne passeras pas outre. À toi le labeur, à toi les charges. À toi le soin de produire tout ce qui est utile à l'homme. Aux autres, les privilèges. Il faut abolir les privilèges. Il faut que tous aient les mêmes droits et les mêmes devoirs. Il faut sortir de l'obscurantisme de l'ancien régime pour les lumières nouvelles de la liberté et de l'égalité.
Mais il lit la BCIS. Qu'est-ce que le tiers-État ?
Oui, il y a une partie sur qu'est-ce que le tiers-État, tout, qu'a-t-il été jusqu'à maintenant, rien, que demande-t-il à devenir quelque chose. Mais pas seulement, il y a différentes choses qui circulent, qui sont... Voilà, qui sont là.
C'est un patchwork.
C'est plutôt un patchwork. Ouais. Mais ce qui me paraît important, c'est effectivement l'idée qui émerge de droit. Voilà, quand même.
C'est-à-dire alors, il y a deux mots quand même.
On se rend compte, parce qu'aujourd'hui, c'est devenu extrêmement galvaudé. C'est-à-dire l'état de droit, c'est le plus petit dénominateur commun de ceux qui se prétendent démocrates. Et on sait que ce n'est pas nécessairement suffisant. Mais à ce moment-là, on passe de l'arbitraire à la possibilité de cet état de droit.
Alors deux mots émergent aussi. Liberté, et de la royauté, de la liberté va naître celle de l'égalité. Et puis, le mot « représentation », alors on a entendu là l'émotion qui entourait la rédaction des cahiers de doléances, va venir le temps de la représentation, avec l'élection des députés qui vont se rendre à Versailles et puis qui vont prendre leur autonomie. Et on approche là des questions de l'actualité, Sophie Vanisch. Le système représentatif qui se met en place, est-il poreux par rapport aux attentes du peuple ? Y a-t-il une écoute politique ?
À ce moment-là, l'écoute politique, effectivement, elle a eu lieu dans toute l'année qui a précédé la réunion des États généraux. Donc, à l'ouverture, c'est le 5 mai 89. Donc, pendant un an, il y a eu une absence de censure, puisqu'on a demandé à ce que chacun exprime ce qui paraissait nécessaire pour faire que ces États généraux soient réussis et qu'on réussisse donc à résoudre la crise. Donc, on a eu 2500 pamphlets qui ont circulé. On a eu ces cahiers de doléances. Il y a des attentes qui sont tout à fait étonnantes et démesurées au regard de ce qu'est l'ancien régime. Et de ce point de vue-là, le tiers-État est effectivement porteur d'un mandat précis qui est inscrit dans les cahiers de doléances, voilà, du tiers-État. Il est dans une position qui est très délicate parce qu'on a réclamé pour sortir de l'ancien régime le doublement du tiers dans les députés. Donc il y a deux fois plus de députés du tiers que du député de la noblesse ou du clergé. Mais on n'a pas obtenu encore le vote par tête. Et donc si on a le doublement du tiers sans le vote par tête, c'est un coup d'épée dans l'eau, comme on dit. Et donc quand ils arrivent, la première chose qu'ils vont avoir à faire, c'est pas de prendre en charge les revendications des cahiers, c'est d'obtenir avant tout ce vote par tête. Voilà. Donc c'est une lutte qui est une lutte très compliquée, très risquée, où la répression peut s'abattre à chaque instant. Et de ce fait, la porosité, elle se fait presque dans l'autre sens. C'est-à-dire que quand les députés sortent de la salle des menus plaisirs, ils sont applaudis par les spectateurs, qu'ils les soutiennent, parce qu'il faut qu'ils aient le courage de tenir. Et donc c'est assez intéressant de voir comment le lien d'émotion se fait dans un rapport d'attente du public qui va donner du courage aux députés.
Alors aujourd'hui, venons-en à 2012, la situation a changé. C'était hier la dernière séance de la dernière session de l'Assemblée nationale. Je ne suis pas sûr que les députés soient sortis applaudis ou qu'on s'est même beaucoup intéressé au bilan de leur travail. Maintenant que la citoyenneté est quelque peu épuisée, que nous traversons, je vous cite Sophie Vaniche, une longue crise de la représentation politique, de la connaissance politique, de l'écoute politique.
Moi qui suis de Lorraine et fils d'ouvrier, qui ai grandi dans le bassin de l'acier, où les hommes souffraient de leur brûlure, travaillant sans compter et sans coupure. Ils ont alimenté la grande machine de feu, volant à chaque instant la mort de peu, pour respecter les cadences infernales, avec leur type et une rage animale. Le maître de l'acier ne peut pas te débattre. Il a mis au placard notre machine de feu, laissant derrière lui un paysage affreux.
Christian Dmitry, c'est un ouvrier, un sous-traitant harceleur qui porte ici, sur YouTube, ses doléances. Vous vous appelez sur Mediapart, parce qu'il y a une partie de Mediapart qui est accessible gratuitement, à exprimer des doléances qui sont celles d'individus singuliers aujourd'hui. Alors, et pas d'ordre, ni de corps, ni de paroisse.
Alors effectivement, on est dans une situation tout à fait différente et il n'y a pas non plus d'appel de la part du roi à convoquer quelconque état généraux. Donc c'est plutôt un appel à doléances de manière à ce que cette unité qui a existé d'opinion dans la période pré-révolutionnaire se constitue alors qu'on nous fait croire qu'on est des individus assez isolés. En fait, en réunissant toute une série de doléances individuelles, d'abord écrites dans un livre, puis ensuite en proposant d'en faire une forme sensible, puisqu'il s'agit de petites vidéos sur Mediapart, sur le blog de Mediapart, il s'agit de faire savoir aux souverains que nous sommes bien constitués comme peuple parce que nous avons le même ressenti face à ce qui ne va pas. Et que de ce point de vue-là, il y a bien quelque chose de commun avec les cahiers de doléances qui doivent faire savoir la vérité de la situation. Et il me semble qu'effectivement, il y a nécessité pour les représentants, s'ils souhaitent vraiment représenter, entendre effectivement cette présence des voix multiples qui disent comment notre présent se présente.
Reste au souverain que n'est pas le futur président à écouter comment l'histoire collective se dit au creux des histoires singulières. Est-ce ainsi que les hommes vivent le collectif auquel vous participez et qui s'intitule Luce Favert, cahier de doléances contemporain, c'est aux Prairies ordinaires et la longue patience du peuple chez Payot.